Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. À tout de suite. Eh bien, rebonsoir à toutes et à tous. Idées Noires, donc, comme tous les mercredis, de 20h à 21h, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Comme habituellement, on va passer à quelques annonces. Bien tassé.
Bonsoir, bonsoir, ouais.
Alors, du coup, pour commencer, il y aura vendredi, là. Donc, dans deux jours, ce vendredi 24 novembre, on va faire... Il y aura une manifestation. Alors, du coup, il y aura d'abord une marche non mixte. Donc c'est contre les violences faites aux femmes, contre les violences masculines. Donc voilà, il y aura une marche non mixte à 19h à Terreau. Le parcours, ce sera Terreau, ça va faire une boucle. Ce sera Terreau, Bellecour et ensuite Place de la Comédie. Et Place de la Comédie, du coup, à 20h, il y aura un rassemblement mixte. Et voilà, donc je vais vous lire le tract du collectif qui a organisé la manifestation. Donc, contre les violences faites aux femmes, la rue nous appartient. Manifestons le 24 novembre à Lyon. Les violences faites aux femmes concernent toute la société. Ne laissons pas faire, ne soyons plus isolés, avec un E. Solidarité avec et entre toutes les femmes. Rendez-vous le 24 novembre 2017 à 19h pour une manif non mixte contre les violences faites aux femmes, entre personnes qui les subissent dans la société, suivie d'un rassemblement en mixité à 20h, place de la Comédie. Alors, en chiffres, une femme sur 10 subit des violences conjugales. En France, tous les 2 jours et demi, une femme meurt sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. En Europe, les violences conjugales sont la première cause de mortalité des femmes de 16 à 44 ans. En 2016, au moins 295 femmes trans assassinées recensées dans le monde. Donc c'est le recensement, c'est sur 33 pays, donc c'est quand même, ça reste très très peu par rapport aux chiffres réels. Dans le monde, toutes les 45 secondes, une femme est violée. Une femme sur 3 subira un viol au cours de sa vie. 90% des agresseurs font partie de l'entourage de la victime, donc famille, amis ou travail. Seuls 1% des violeurs qui passent en procès sont condamnés pour crimes aux assises. 100% des femmes subissent du harcèlement sexuel. Donc ensuite, quelques citations des hashtags qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Donc « Balance ton porc »,« MeToo ». Alors, le premier, c'est... J'ai 14 ans, je suis avec un ami de mes parents qui promène son chien. Il me met la main aux fesses et surtout pétrit mes seins en vacances chez nous en Alsace. Ensuite, en juillet 2014, alors que je sors de son cabinet de psychiatre, celui-ci me met la main aux fesses. C'était la première fois que je venais chez lui, je n'y suis pas retournée. Il y a quelques années, le premier adjoint de la commune m'a violée alors que je lui faisais confiance. Il a proposé de me reconduire chez moi après un conseil municipal et m'a sauté dessus avec force dans un endroit isolé. C'est un homme violent qui me fait encore peur aujourd'hui. Ma sœur, porteuse de trisomie 21, a été agressée sexuellement par un éducateur. Ma sœur a été suspectée de fabulation liée à son handicap. L'éducateur est toujours en poste. Le président de l'association propriétaire du centre d'hébergement s'est exclamé « Un viol, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier ». Mariée à un homme plus âgé, je lui faisais confiance. J'ai vite été dépouillée de ce qui était important pour moi. Travail, famille, argent, amis, communication. Je suis devenue une domestique. Lorsqu'il m'a plaquée de force sur un lit, en m'arrachant mes vêtements, malgré ce fameux non, j'ai réalisé l'ampleur du problème. Ma famille ne m'a pas crue ni soutenue. Aucune complaisance pour les agresseurs, nous ne nous tairons plus face à un système patriarcal qui nous ignore et entretient les violences que nous subissons. Ne soyons plus isolés, solidarité avec et entre toutes les femmes. Violences faites aux femmes concernent toute la société, ne laissons pas faire. Avec comme signataire Alternative Libertaire de Lyon, le collectif d'autodéfense et d'action féministe, la CGT Éducation, la CGT Vinatier, la coordination des groupes anarchistes à Lyon, groupe antifasciste Lyon et environ, la Lesbian and Gay Pride, MeToo à Lyon, le NPA, donc nouveau parti anticapitaliste, solidaire et Sud-Éduc. Ensuite, on a le tract de nous, donc de la CG à Lyon, par rapport à cette manif. Donc, contre les violences masculines, solidarité féministe. Le 25 novembre a lieu la journée de lutte contre les violences masculines pour dénoncer les violences quotidiennes exercées par des hommes sur des femmes. Le 20 novembre a lieu la journée du souvenir trans, Transgender Day of Remembrance, pardon, toujours avec l'accent, pour commémorer les personnes trans assassinées. Si ces deux journées sont souvent présentées de manière complètement disjointe, il nous semble pourtant qu'elles se rejoignent énormément. Les deux ont pour origine l'assassinat de femmes, Patria, Minerva et Maria Teresa Mirabal, assassinées le 25 novembre 1960 par le dictateur de la République dominicaine, Rafael Trujillo. Pour la journée contre les violences masculines, Rita Esther, assassinée le 28 novembre 1998 et dont le meurtrier reste inconnu, pour la journée du souvenir trans. La grande majorité des personnes trans assassinées sont des femmes, la plupart racisées, et la quasi-totalité des assassins sont des hommes. Et si la composante transfemme est bien évidemment présente dans ces meurtres, ils ont aussi un caractère misogyne. De la même manière, si les violences masculines touchent les femmes, elles frappent encore plus violemment celles qui cumulent d'autres oppressions, femmes trans, racisées, prolétaires, lesbiennes ou bisexuelles, indies, etc. En effet, les violences masculines ne sont pas l'œuvre de quelque individu violent, mais une manière de maintenir le patriarcat, c'est-à-dire la domination des hommes sur les femmes. La lesbophobie, la biphobie, la transphobie ne sont pas dissociables du patriarcat, mais en font partie intégrante. Elles servent à faire rentrer dans le rang ou à éliminer les femmes qui ne suivent pas le modèle patriarcal. Celui-ci assigne des individus à un genre en fonction de leur sexe de naissance et érige l'hétérosexualité comme norme. Dans ce modèle, les lesbiennes et les femmes trans ne peuvent être considérées que comme objets de fantasmes pour hommes hétérosexuels ou comme des monstres à éliminer ou à corriger, car n'étant pas de vraies femmes, entre guillemets. Les violences masculines ne sont pas gratuites ou aveugles, mais servent à maintenir l'exploitation des femmes par les hommes. Travail domestique ou les tâches ménagères, d'éducation, l'éducation des enfants, le travail émotionnel, etc. reviennent majoritairement aux femmes. Appropriation du corps des femmes par les hommes, donc avec viol, agression sexuelle, injonction au sexe, etc. Écart de salaire et précarité dans l'emploi, etc. Les violences des hommes sur les femmes sont partout, à la maison, dans la rue, au travail, dans les transports, à l'école, chez le médecin, etc. Ces violences tuent au quotidien, mais ces meurtres sont présentés comme des faits divers ou des drames familiaux, plutôt que comme un mécanisme systémique. La police et la justice patriarcale couvrent ces violences. Lorsque des femmes portent plainte, elles se voient souvent ridiculisées, interrogées, jugées sur leur comportement ou leurs vêtements, et la plupart du temps, les procédures contre les agresseurs n'aboutissent pas. À l'inverse, lorsque des femmes se défendent, elles sont parfois condamnées pour ne pas s'être laissées faire. Et lorsque des policiers s'en prennent à leur compagne ou ex-compagne avec leur arme de service, comme ça a encore été malheureusement le cas à Sarcelles il y a quelques jours, l'origine sexiste est totalement évacuée et l'on parle juste au mieux de folie meurtrière, voire comme Gérard Collomb, qui préfère parler de difficultés que ces assassins peuvent ressentir. Face aux violences masculines et au patriarcat, il est urgent de développer des solidarités féministes. Solidarité féministe qui inclut toutes les femmes et prennent en compte les autres oppressions qu'elles subissent, que ce soit le capitalisme, la lesbophobie, la transphobie, le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, le validisme, le travail du sexe ou prostitution, etc. Des solidarités féministes pour reprendre du pouvoir sur nos vies et sur nos corps, pour prendre confiance en nous, pour apprendre à dire non, à nous défendre, à nous battre, pour construire ensemble un monde sans oppression. Et voilà. Donc voilà pour la première annonce avec...
Ouais. Donc on rappelle juste du coup la date et l'heure, donc c'est ce vendredi 24 novembre.
19h à Terreau pour la marche non mixte.
Voilà.
Et 20h pour le rassemblement en mixité.
Voilà. Et pour ceux qui seront encore choqués ou pas par cette non-mixité, on vous invite. On va pas redébattre ce soir parce qu'on l'a fait à un grand moment. Enfin, il y a plusieurs émissions où on a fait le cas, on a lu des textes, on a essayé d'expliquer ça de nouveau. D'aller trouver eux-mêmes les textes sur Internet pour savoir un petit peu pourquoi il existe des manifestations non mixtes.
Voilà.
Voilà. Et deuxième petite annonce, que du coup, alors on ne vous invite pas à vous déplacer vers le Vieux-Lyon ce week-end, notamment dimanche après-midi, puisqu'il va y avoir une marche anti-avortement, donc initiée par les cathos intégristes lyonnais, du coup, voilà, qui se retrouveront place Saint-Jean à 14h dimanche, voilà, pour du coup, voilà, manifester contre l'avortement, contre la PMA, enfin voilà, contre toutes ces choses un peu progressistes qui ne veulent pas voir arriver en projet de loi, notamment en ce qui concerne la PMA en tout cas.
Avec un beau culot quand même, le même week-end que...
Voilà, les violences masculines, la violence nationale de violences masculines, c'est quand même formidable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la préfecture s'en tape totalement, puisque du coup, leur appel de départ, et donc c'est pour une marche, hein, une marche comme ils appellent ça, pour la vie, enfin, du coup c'est quand même autre chose que ce qu'ils appellent, comme ça, et qu'est-ce que je voulais dire, oui, du coup ça passe... Ça part de la place Saint-Jean. Alors on rappelle quand même que la marche des fiertés a été interdite deux fois ces deux dernières années de passer par le Vieux-Lyon, puisque aucune manifestation politique ne peut se tenir maintenant là-bas, d'après la préfecture, qui avait déjà eu la manif pour tous, qui avait fait une marche là-bas, et donc maintenant de nouveau une marche réac qui aura lieu du coup dans le Vieux-Lyon. Donc on vous invite surtout à ne pas y aller ce jour-là. Ça, vous risquez d'être malade, d'avoir cette tête. Et une autre annonce, alors on prend un peu d'avance, ce sera pour le samedi 2 décembre, mais c'est une manifestation à laquelle on tient. Il va falloir qu'il y ait énormément de monde pour que ce soit une réussite. C'est une manifestation donc le 2 décembre qui partira de 15h de la place des Terreaux, donc en solidarité avec toutes les migrantes et migrants, à l'initiative du collectif de soutien aux réfugiés et migrants migrantes de Lyon, dont la CGA Lyon fait partie. Le but, ça va être d'essayer de fédérer un peu tout ce qui se fait en ce moment au niveau des personnes à la rue, des migrants expulsés, des squats expulsés, des campements expulsés, des gamins qui vivent à la rue. Voilà, il y avait une mobilisation aujourd'hui, vous avez sûrement suivi ça, donc initiée par Jamais Sans Toi, donc un collectif qui regroupe tous les collectifs des écoles qui se mobilisent pour pas que les gamins qui sont scolarisés et leur famille dorment à la rue. Donc il y a eu tout un événement, des événements lundi 20 novembre, là, il y a deux jours, avec des soupes solidaires un peu dans énormément d'écoles. Plus les années passent, et puis il y a des écoles qui sont impliqués, parce que plus il y a de gamins qui sont concernés par ces histoires de non-logement, en tout cas, et de leur famille. Et du coup, il y a des écoles qui ont essayé d'être occupées, les flics étaient là pour essayer de tout bloquer, donc voilà, selon les écoles, ça se fait, selon d'autres, il y avait les flics qui tournaient apparemment devant quelques écoles ce soir encore. Donc là, le rassemblement de ce soir, c'était vraiment pour essayer de fédérer tous ces collectifs et de montrer, voilà, le chiffre, c'est qu'il y a environ à peu près plus de 300 enfants qui dorment à la rue, voilà, chaque soir, sur l'agglomération lyonnaise, et que du coup, les autorités publiques ne font rien pour cela. Voilà, donc ça sera une des parties de la mobilisation. La deuxième partie, c'est celle qui concerne tous les migrantes et les migrants. Vous êtes au courant aussi qu'il y a notamment un campement sur l'esplanade Mandela, vers les archives municipales à la Part-Dieu, donc avec près de 200 personnes maintenant qui vivent là-bas depuis un moment, qui risquent l'expulsion à tout moment, puisque l'avis d'expulsion est arrivé sur le bureau du préfet. Plus les jeunes mineurs ou majeurs qui dormaient le soir à la Part-Dieu, qui ont été expulsés la semaine dernière, qui sont hébergés pour le moment dans un amphi à Bron, à Lyon 2, à laquelle vous pouvez aller pour donner un coup de main si vous le souhaitez, et qui occupait un squat, du coup c'était ce lundi, et qui ont été expulsés manu militari, alors que le squat avait été ouvert de manière légale. Ça veut dire qu'il y a une ouverture d'un contrat au LA, qui me semble, du coup de plus de 48 heures. Voilà, tout ça pour essayer de mobiliser sur Lyon, de regrouper tous ces collectifs, de faire une grosse manif, et aussi pour anticiper malheureusement le prochain projet de loi du gouvernement Macron, avec Gérard Collomb à la manette. Voilà, un projet encore plus liberticide et xénophobe que ce qui se fait aujourd'hui. Alors déjà qu'aujourd'hui c'est grave de chez grave, mais vous imaginez ce qui va arriver dans quelques mois quand ce projet de loi va arriver sur la table, notamment une durée de rétention portée à 90 jours, voilà, donc qui serait augmentée pour traiter le dossier, que la personne peut être expulsée et pas relâchée au bout des 45 jours. Il va y avoir, enfin, le droit d'asile en fait va être remis en cause. Le but avéré, hein, voilà, qu'on connaît un petit peu, c'est de faire le tri de toutes ces de ces personnes, voilà, ils veulent faire le tri des migrantes et des migrants, trier le bon, bonne et mauvais selon eux, voilà, migrantes et migrantes, pour en expulser un maximum et d'en garder qu'une toute petite partie qui aurait le droit de demander l'asile. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, ce qu'ils veulent encore, vous connaissez sûrement les accords Dublin, donc les personnes qu'on a traversées, soit la Méditerranée, soit toute l'Europe, le premier pays où elle est arrêtée, où ses empreintes sont prises, si elle va dans un autre pays, elle doit retourner dans ce premier pays, ce pays-là qui doit étudier sa demande d'asile, si elle fait une demande d'asile. Donc voilà, donc ils veulent encore accentuer ça. On parlait même maintenant, peut-être que ça va se calmer un petit peu, d'un contrat avec la Libye pour que les migrants soient gérés, les migrantes soient gérées du coup à l'extérieur de l'Europe, qui est un hotspot entre guillemets, qui soit géré là-bas. Je pense que ça va peut-être un peu calmer vu les révélations qu'il y a eu. On le savait déjà depuis un grand moment, mais enfin il y a eu des vidéos montrant ce marché aux esclaves. Voilà, les migrantes et les migrants qui sont vendus comme des esclaves en Libye. Donc voilà, donc on va essayer du coup de mobiliser sur toutes ces questions-là, vraiment pour essayer de regrouper toutes les initiatives qu'il y a, voilà, en solidarité avec les migrantes et les migrants. Donc on espère qu'il y aura du monde. Ce sera le 2 décembre à 15h, place des Terreaux. On en reparlera la semaine prochaine. Et voilà, n'hésitez pas non plus à diffuser l'information massivement.
J'ai deux petites annonces aussi, très rapidement. Rappeler l'émission La Petite Cuillère, son œuvre, sa rubrique, hein, Mégaphone. C'est les 2e et 4e et 5e jeudi du mois. Donc c'est demain, hein, jeudi 23 novembre, la prochaine émission. Alors pour expliquer encore une fois, ce sont des messages, hein, aux prisonniers, aux prisonnières de la région. Et ceci donc dans toutes les langues, il faut le noter ça. Alors il y a un numéro auquel vous pouvez laisser vos messages, c'est le 07 81 35 93 71. C'est 24 heures sur 24 et les messages sont donc diffusés ensuite pendant cette émission. Alors il y a plus aussi d'infos, hein, si vous voulez plus d'infos, vous allez sur Rebellion et vous aurez tout ça. Également le samedi 25, c'est le collectif Jeunes RESF qui présente une création collective de son atelier théâtre. C'est quoi le problème? Donc je pense que c'est le titre de la pièce. Et c'est dans le cadre du festival Migrants Scène. Voilà, ça se passera au bar de l'autre côté du pont, qui se trouve cours Gambetta, dans le 7e arrondissement, et c'est à partir de 17h. Voilà pour les annonces. Voilà,
n'hésitez pas à y passer, soit pour la pièce de théâtre, si vous pouvez, soit un peu après, de toute façon, parce que du coup, généralement, le samedi, le bar, il est donc prêté, enfin, le lieu est prêté à des associations, et du coup, il y a une partie où toute la recette, je ne sais plus, qui est reversée, du coup, au collectif. Et là, donc, ce sera pour RESF et pour aider ces personnes. Voilà.
Voilà.
Voilà, juste pour terminer, on l'avait dit la semaine dernière, je ne me rappelle plus exactement l'heure et tout, mais le 1er décembre, du coup, il y aura une marche de lutte contre le sida, vu que c'est la journée internationale de lutte contre le sida. Du coup, ça se fera entre Bellecour et Terreau.
Et Terreau, normalement, comme d'habitude.
Voilà, ouais. Ça part, je sais plus, 18h.
18h, ouais. Maintenant, ouais. On redonnera le 1er décembre, je sais pas quelqu'un le sait, mais on redonnera la date si on peut la semaine prochaine.
Oui, d'accord. Oui, on pourra.
Très bien. Bon,
petite pause du coup pour.
Une pause.
Je sais pas, comme.
Musique.
Comme bon, on peut faire une page de lutte sociale avant.
J'en ai une très courte qui est enfin je vous allais écouter le texte. Hein. C'est alors attendez que je retrouve ça. C'est Charles Davray. Hein, c'est Viens chez moi. Ça date de 1901 quand même. Hein.
Viens chez moi. Nul de vous ne doit l'ignorer. Aussi mon chemin de la ville, quiconque peut y pénétrer. Artisan de la pensée, si tu sens dans la poussière ta liberté menacée, viens chez moi. Déserteur de la patrie, adversaire des tueries, si demain tu t'expatries, viens chez moi. Avorteur, toi nous l'absence, homicide par prudence. Des heures de vengeance, viens chez moi, justicier des nobles causes, qui t'insurge, t'arme rose, puisqu'à la mort tu t'exposes. Viens chez moi, étranger que l'on pourchasse, que m'apporte à moi ta race, et que tu crains la menace. Anarchiste invétéré, je pratique le droit d'asile, et pour moi, ce droit est sacré.
Et re-salut, on est toujours sur l'émission Idées Noires de la coordination des groupes anarchistes au 102.2 sur Radio Canaille. Et on va enchaîner avec une page de lutte sociale.
Allez, c'est parti. Je voulais simplement rappeler que c'est cette petite chanson que vous avez entendue, là, qui est bienvenue d'ailleurs, hein, par rapport à ce qui s'est passé ce soir. Donc, ça fait partie du coffret que j'ai ressorti encore une fois, L'Esprit anarchiste, 1820-1990, chanson anarchiste et pacifiste. Voilà, voilà. Alors des luttes, ben, j'en ai, hein, plein ma besace là. On va aller sur Nanterre avec un lycée qui est en colère, c'est le lycée Joliot-Curie, donc avec une rénovation à 53 patates qui a été faite par le conseil régional. Et puis, c'est que le chantier, il est toujours en état de chantier. 1500 élèves qui se bagnaudent dans le chantier et les enseignants qui ont fait jouer donc leur droit de retrait. Alors faut dire que le décor, il est coton, puisque les escaliers, par exemple, ne sont pas terminés et il manquait des rambardes, internet absent et autres dysfonctionnements que je ne vous citerai pas là, ils sont très 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 nombreux. Alors promesse du conseil, c'est de mettre le paquet. Alors devinez qui va trinquer, en heures supplémentaires pas payées ou en conditions de travail abominables. Voilà, vous allez tout trouver. Il y avait quand même 53 profs qui ont fait cette grève. Donc 85% donc de l'effectif des profs qui ont suivi donc après une assemblée générale. À Paris, donc tout à côté de Nanterre, c'était le 17 octobre 2017 avec un rassemblement pour la mémoire des victimes de l'État français lors d'une répression imposée par le préfet de police de l'époque gaulienne. Je citerai Maurice Papon. Il y avait eu plusieurs centaines de personnes à cette manifestation, du mois le 17 octobre 2017, des associations et des syndicats. Et en 61, il y a eu plusieurs milliers d'Algériens qui avaient manifesté pacifiquement pour la paix en Algérie, le droit à l'égalité, le droit à l'indépendance et contre le couvre-feu imposé, décrété par le dénommé Maurice Papon. Il y avait eu de nombreuses arrestations, des tortures, des morts, des morts donc retrouvés dans la Seine pour certains, des disparus également dont le nombre reste, dit-on, sobrement discuté. À Tian, maintenant c'est dans le Schnorr, donc c'était le 23-10, parce que là oui on est toujours au mois d'octobre, là, hein, j'avais pas fini donc le mois d'octobre, alors il n'y a pas de raison, donc c'était dans l'après-midi chez Nidaplast, on fait dans la plasturgie, dans cette société, 94 salariés grévistes solidaires d'un de leurs camarades licenciés pour cause de maladie, alors congé pas au goût évidemment de la direction. Il y a aussi une dégradation des conditions de travail, 30 grévistes avec la CGT qui dénoncent la pression plus incisive de jour en jour, le refus de réintégrer donc le collègue également de la part de la direction. La CGT a contacté Etex, qui est le groupe propriétaire de cette société. L'usine était bloquée, la mise à pied à titre conservatoire également de deux délégués de la CGT. À Draveil, dans le 91, c'est le centre de distribution de la Poste, avec en tête donc Sud Poste 91, qui s'y pose ici pour une grève illimitée à cause de la suppression de 7 tournées, un manque d'effectifs également depuis toujours, et le dialogue était rompu avec la direction. Itou à Ris-Orangis, toujours dans le 91, une grève donc conduite par la CGT encore une fois, et c'est une illimitée aussi pour tout le personnel du secteur. Alors quand je dis le secteur, c'est-à-dire les villes limitrophes à Ris-Orangis. Le bureau de Ris-Orangis, c'est le retour aux horaires qui souhaitent en fait les facteurs et factrices, c'est le retour aux horaires d'origine et même une réorganisation de ceux-ci, le maintien du personnel, le respect du temps de pause et un service public de qualité. Une caisse de grève a été mise en place. Alors à Dijon, ça concerne encore la Poste, c'est toute l'équipe des techniciens qui saute carrément, on fait exploser. Donc 10 personnes de la maintenance de la PIC. La PIC, c'est la plateforme industrielle du courrier. C'était le 6-11. Alors boulot remis, clé en main, donc à une société privée. Voilà. Ensuite, à l'instar donc des postiers, des postières, des employés de poste, tout azimut, ce sont les pompiers qui prennent la relève et embraye dans des luttes, enfin des grèves dites administratives. C'est le cas dans le Gard depuis le 23 octobre avec le syndicat Sud pour dénoncer les moyens pauvres, le manque de personnel, donc CQFD, grève illimitée. Manif à Nîmes, il y a eu une manif à Nîmes de 250 personnes, donc des pompiers. Rassemblement au conseil départemental, à la préfecture, avec le traditionnel badigeon de neige carbonique. Occupation de la gare, puis pour faire bonne mesure, action au péage gratuit sur l'autoroute A9. Alors, non entendu par les autorités, c'est-à-dire la préfecture et le SDIS, à qui ils ont renvoyé la balle. Alors, c'est, quand je dis renvoyer la balle, c'est tout à fait justifié, puisque leur secrétaire syndical, donc de Sud, se nomme Nadal. Elle est bien bonne. Elle est bien
bonne. J'attendais le jeu de mots.
Oh, il faut en faire un petit peu de temps en temps, quoi. À Mauze, donc c'est dans l'Ardèche, ben c'est son hôpital, la joie, le bonheur d'y pratiquer. La direction impose, exige d'appliquer ses directives. C'est simple et de mauvais goût. C'est la fin carrément des 35 heures, les RTT aux orties, ITU pour les primes et départ en retraite. Le bonheur d'y pratiquer, je le disais, ben c'est la grève aussi, hein, installée le 25 octobre. Une réunion de négociation perturbée et le soutien sans faille des locaux, c'est-à-dire des habitants et habitantes de Mauze. Risque d'hôpital fantôme ou fantoche, disparition en... Il y a déjà eu une disparition en 2004 de la chirurgie de la maternité en 2008. Voilà, ça se porte bien aussi du côté des hôpitaux. Voilà pour cette première page de lutte.
J'y vais. Je continue. Du coup, j'ai un petit jeu pour vous. On va voir si vous êtes fort ou pas en Frontex. Voilà, en Frontex. Est-ce que vous savez déjà ce que c'est Frontex? Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est Frontex?
Tu vas nous le dire.
J'entends à droite, à gauche. Non, pas de réponse. Dommage.
Frontière.
Frontex. Ouais, voilà, bah, j'y vais du coup. Hein. Donc, Frontex a été créé par l'Union européenne pour empêcher donc l'accès à ses 42 000 km de côte, 9 000 km de frontières terrestres et 300 aéroports internationaux. Donc, cette Union européenne, fameuse Union européenne, a créé donc en 2004 cette agence européenne pour la gestion de la coopération aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, en gros pour empêcher les migrantes et migrants de venir en Europe. Elle est intégrée depuis 2016 au corps européen de garde-côtes et de garde-frontières et dispose de davantage de prérogatives et de moyens. Que ce soit au niveau financier, au niveau humain, au niveau technique. Donc en gros, Frontex, bah, c'est le bras armé de la politique migratoire européenne pour empêcher du coup les migrantes et les migrants de venir. En gros, depuis sa création, bah, son budget, ses ressources ont cessé d'augmenter. 19 millions d'euros pardon, en 2006, 97 millions en 2014, 254 millions en 2016, soit une augmentation de 1336% en 10 ans. Donc voilà. Donc en gros, c'est pour empêcher les migrantes et les migrants de venir. Maintenant, j'ai un petit jeu, un petit vrai-faux sera peut-être plus facile que qu'est-ce que c'est Frontex. Attention, est-ce que tout le monde a le droit de migrer? Vrai ou faux? Vous voulez pas répondre à mon petit jeu?
Selon
vous
ou selon la loi?
Non, selon la loi. Oui, donc donc vrai, voilà, mais c'est vrai parce que du coup la Déclaration universelle des droits de l'homme 1948 et le Pacte international sur les droits civils et politiques de 66 consacrent le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Donc là c'est la pratique théorique, enfin c'est la théorie pardon de la loi. Vous savez bien du coup que c'est pas le cas quand des personnes veulent quitter les pays. Deuxième question. Les flux migratoires vont des pays pauvres vers les pays riches.
Plutôt vrai.
Eh ben non, c'est faux.
Non. Ah non, pays pauvre.
Ouais, la majorité des personnes qui se déplacent pour des raisons économiques ou à la recherche d'une protection le fait à l'intérieur de son propre pays ou dans un pays voisin. Voilà, en 2015, les migrants internationaux représentaient 244 millions de personnes, soit 3,3% de la population mondiale. Parmi eux, seul un tiers s'est déplacé d'un pays en développement, entre guillemets, vers un pays développé. 60% des migrations s'effectuent ainsi entre pays de même niveau de développement. Voilà, troisième petite vérité, l'Europe accueille déjà beaucoup de réfugiés.
Non.
Vrai ou faux?
Non.
Et ben du coup, il y a les deux, je vous ai piégé, désolé, mais moi aussi je me suis fait avoir quand j'ai lu le truc. C'est vrai parce que du coup, l'Union européenne a enregistré 1 204 300 nouvelles demandes d'asile en 2016, notamment des personnes d'origine de Syrie, d'Afghanistan, d'Irak, de Kosovo et de Serbie et d'Érythrée. Donc c'est l'Allemagne, du coup, avec 441 000 demandes déposées en 2015. C'est le premier pays dans le monde à recevoir de demandes d'asile, suivi par les États-Unis, la Suède, la Fédération de Russie et la Turquie. Attention, entre guillemets, enregistrer les demandes d'asile ne suffit pas à protéger les réfugiés, car en 2015, seule une personne sur deux s'est vue octroyer un statut de protection. Et là où c'est faux quand on dit que l'Europe accueille déjà beaucoup de réfugiés, c'est que 86% des 65 millions de personnes réfugiées et déplacées internes se trouvent dans les pays en développement. Donc c'est pour ça qu'elle n'accueille pas forcément beaucoup de réfugiés par rapport à d'autres pays du Sud. Quatrième petite question, si les pays du Sud étaient développés, les gens ne partiraient pas. Vrai ou faux? Gros argumentaire de l'extrême droite. Là, c'est faux, oui. Les études démontrent que le développement occasionne en premier lieu des mouvements migratoires, car une partie de la population plus aisée peut alors décider de migrer, alors qu'elle ne peut pas forcément au départ. Cinquième petite question, l'Union européenne contrôle uniquement les frontières. Non, c'est faux. Parce que depuis 20 ans, l'Union européenne externalise ses politiques migratoires pour déléguer la gestion des mouvements migratoires aux pays tiers. C'est-à-dire qu'elle délocalise notamment les contrôles aux frontières et Frontex y participe à cette externalisation. Formation des gardes frontières et des gardes-côtes étrangers, coopération et échange d'informations avec plus de 43 pays dans le monde sur les parcours migratoires, déploiement d'agents Europe, administration, organisation de vol entre guillemets de retour des personnes expulsées. Ça veut dire que c'est comme ce que fait Macron, hein, c'est ce qu'ils ont fait avec la Turquie en externalisant l'arrivée des migrantes et des migrants dans d'autres pays. Frontex est une agence de sauvetage.
Non,
c'est faux, oui, je suis d'accord. Le nouveau mandat de l'agence intègre le règlement européen de 2014 relatif aux opérations maritimes, normalement selon laquelle Frontex doit porter secours aux personnes en détresse en mer. Cela constitue un rappel des obligations qui incombent à tout navire selon le droit international de la mer et ne fait pas de Frontex une agence de sauvetage. Son mandat porte exclusivement sur le contrôle aux frontières et la lutte contre le franchissement irrégulier des frontières extérieures. La priorité de l'Union européenne n'est donc pas le sauvetage, mais bien la lutte contre l'immigration dite clandestine. Il y en a 10, hein, c'est la 7e. Les politiques migratoires européennes ont des conséquences mortelles.
Bah oui.
Et oui, parce que les politiques migratoires sécuritaires actuelles n'empêchent pas les gens de migrer, elles n'empêcheront jamais. Elles les poussent à prendre des voies de plus en plus dangereuses. Donc on a vu tout ce qui s'est passé en Méditerranée ces dernières années. Et ce qui se passe maintenant en France, c'est les personnes notamment qui sont en Italie, qui veulent passer en France, passent par la montagne. Il y a eu des situations assez ouf qui se passent en ce moment. Bon, on le savait du coup au niveau de la vallée de la Roja, mais aussi au niveau de Briançon maintenant, avec des personnes qui sont même laissées par les militaires de manière consciente dans la neige, dans les montagnes, alors qu'elles ne sont pas équipées pour. Il y a des urgences de santé voilà, assez énormes là-bas. Il y aura sûrement du coup un petit quelque chose qui se fera aussi sur Lyon bientôt, une petite soirée de soutien voilà, aux gens qui militent là-bas, parce qu'ils ne sont pas énormément et du coup il y a beaucoup de boulot. Ouais. Je reviens, celle-ci on s'en fout. Frontex ne renvoie personne vers des pays dangereux, vrai ou faux?
Oui.
Mais non, c'est faux.
Ah oui, non, mais c'est faux, oui.
Ouais, vous avez inversé.
Il renvoie, oui, d'accord. Oui.
Exactement, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui s'impose à Frontex interdit normalement de renvoyer quiconque aurait une crainte sérieuse de violation de ses droits dans le pays de renvoi. Ce principe est rappelé dans le mandat de l'agence sans préciser comment le garantir, ce qui pose problème surtout lors d'opérations en mer où les personnes migrantes ne peuvent s'adresser à un conseil. Cela est d'autant plus préoccupant que les plans opérationnels de Frontex qui en précisent les modalités ne sont pas publics. Et après on sait qu'il y a des pays qui sont classés maintenant en pays sûrs mais qui ne le sont pas du tout pour les personnes qui sont renvoyées là-bas. Et enfin, les parlements contrôlent les accords signés par Frontex. Eh bien ça, c'est faux. Je vous réponds pour vous, du coup, hein, parce que celle-ci n'était pas évidente. Parce que l'agence peut signer des arrangements de travail, entre guillemets, avec des organisations internationales et les États tiers, entre guillemets, 18 à ce jour, y compris avec la Turquie, la Biélorussie et le Nigeria. C'est-à-dire qu'on peut faire un petit arrangement entre potes, voilà, pour que les migrantes et les migrantes ne puissent pas passer les frontières. Mmh. Alors, ce petit document que je vous ai lu, c'est un document qui s'appelle Frontex, voilà, pour sortir de Frontex. Le titre du document, c'est « L'Europe est en guerre contre un ennemi qu'elle s'invente », et notamment initié par le collectif s'appelle Migre Europe, que je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur leur site.
Très bien.
Donc voilà, pour cette petite page consacrée aux migrantes et migrants.
Okay,
qui prend la suite?
Je vais enchaîner avec du coup un communiqué sur une polémique qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Donc c'est Sud Éducation, dans le 93, donc en région parisienne, qui organise des ateliers non mixtes pour entre personnes racisées qui subissent les mêmes discriminations, tout ça, pour évoluer là-dessus, en parler, mettre en place des choses. Et du coup, ils ont été attaqués par Blanquer à l'Assemblée nationale. Blanquer. Donc Blanquer à l'Assemblée nationale pose verbalement l'attaque pour Sud Éducation et du coup il veut en fait porter plainte pour diffamation. Alors pourquoi? Parce que Sud Éduc a mentionné que c'était des ateliers qui étaient pour contrer le racisme d'État, mais selon l'État ça n'existe pas. Donc voilà. Alors,
ça c'est fou. Mais bon voilà, ils sont bien gentils. Hein,
donc voilà, enfin c'est faux, on est d'accord. Et du coup je vais vous lire le petit communiqué qu'ils ont sorti, qui est quand même pas trop mal. Donc racisme d'État, personnes racisées, non mixité, discrimination, mise au point. Une campagne se développe contre un stage de formation syndicale organisé par le syndicat départemental Sud Éducation 93. Le fonctionnement de la Fédération des syndicats Sud Éducation laisse entièrement l'autonomie de chaque syndicat, en particulier en matière de pratiques syndicales et de politiques d'action, notamment sur le contenu des formations locales. Le ministre de l'Éducation nationale s'est exprimé devant l'Assemblée nationale ce mardi 21 novembre. Il a notamment dénoncé que la Fédération Sud Éducation ne se soit pas désolidarisée de Sud-Éduc 93. La Fédération Sud-Éduc tient à faire une mise au point sur un certain nombre de contresens opérés par le ministre à cette occasion. Donc, contre le racisme d'État. Nous avons pris connaissance de l'intention de M. Blanquer de porter plainte pour diffamation contre le syndicat Sud-Éducation 93 au motif que celui-ci utilise le terme racisme d'État. Si le ministre veut attaquer en justice toutes les organisations qui utilisent ce terme, la Fédération Sud-Éducation en fait partie. En effet, son dernier congrès en 2015 s'est donné parmi ses objectifs de combattre le racisme d'État, outil de division des travailleurs et des travailleuses. Cette expression fait débat, car pour certains et certaines, elle renvoie à des systèmes racistes officiels tels que le régime de Vichy ou les États d'apartheid. La législation française ne correspond effectivement pas à ces critères, puisque dans la loi d'égalité de toutes et tous est formellement proclamée et les actes et propos racistes sont interdits. Ce que notre congrès dénonçait, c'est un système inégalitaire et le deux poids deux mesures. Un ensemble de politiques institutionnelles qui font système et qui permet d'affirmer que l'État dans lequel nous vivons est bien, dans les faits, raciste, au sens où il reproduit, poursuit et aggrave des situations de discrimination raciste, directe et indirecte. Ainsi, le rapport au Premier ministre de juin 2016, les discriminations dans l'accès à l'emploi public établit l'existence de discrimination fondée sur les origines ou sur les lieux d'habitation et dans l'accès aux emplois publics. La Cour de cassation a condamné l'État pour les contrôles aux faciès. Les discriminations dans l'accès au logement sont établies, etc. Racisé égale victime du racisme. Le terme racisé est dénoncé par Jean-Michel Blanquer comme impliquant une vision raciste de la société, alors que c'est exactement l'inverse. Ce terme lui aussi fait débat, mais c'est un terme désormais, en usage installé dans les sciences sociales. Il désigne le processus social qui attribue à une race, entre guillemets, à certaines personnes et qui les discrimine sur cette base. Affirmer qu'il y a des personnes racisées, ce n'est en rien affirmer l'existence réelle de race, c'est uniquement reconnaître pour la dénoncer l'existence d'un racisme systémique, c'est-à-dire d'un racisme qui ne se présume pas à des actes individuels. Racisé signifie, en résumé, victime du racisme. C'est en ce sens qu'il a été utilisé dans deux textes adoptés par notre dernier congrès fédéral. La non-mixité est un outil. Le stage de Sud-Éducation 93 n'est interdit à personne. Il propose deux temps non-mixtes pour permettre aux personnes qui subissent le racisme de se regrouper. Cet outil de la non-mixité choisi a été mis en œuvre et explicité par la génération fondatrice du mouvement de libération des femmes. Dans des écoles nordiques, des espaces de jeu sont investis en non-mixité. En France, certains et certaines enseignants ou enseignantes mettent en place des moments de non-mixité choisis. Certains cours de PS, intervention d'éducation sexuelle, etc. Ce qui vaut pour le sexisme vaut également pour le racisme. La non-mixité choisie a également été utilisée dans le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis d'Amérique. La non-mixité choisie est temporaire et une stratégie de résistance politique à des dominations structurelles telles que le racisme ou le sexisme. Elle libère la parole, la sécurise, permet une mise en confiance. Elle donne de la force pour affronter les situations de discrimination et les stéréotypes. Le ministère contre les discriminations, chiche. C'est un mot pour toi, Sadan. Nous nous réjouissons de voir que M. Blanquer saisit à bras le corps la lutte contre les discriminations. Nous espérons donc que les contrôles policiers au faciès pendant les sorties scolaires, les refus de scolarisation d'enfants migrants, les inégalités de progression de carrière entre femmes et hommes dans l'éducation nationale comme ailleurs cesseront au plus vite et que plus un seul ou une seule de nos élèves ne dormira à l'hôtel ou dans la rue. Nous sommes dans l'attente d'actions concrètes pour lutter contre les inégalités territoriales, pour garantir l'égalité du droit à l'éducation avec une carte élargie de l'éducation prioritaire incluant les lycées et un label sur des critères ministères nationaux et transparents, des moyens pérennes et des droits pour tous et toutes, des postes et des seuils d'effectifs contraignants permettant la réduction des effectifs par classe. Enfin, nous constatons que le ministère qui devait recevoir la Fédération Sud-Éduc le mardi 21 novembre a annulé 2 heures avant ce rendez-vous prévu de longue date, préférant le même jour communiquer par médias interposés. Notre fédération comptait y porter des sujets sur lesquels les personnels attendent des réponses et notamment questionner le DGRH sur la réforme du bac et de l'orientation post-bac, l'annualisation des CUI et reclassement des stagiaires, le reclassement des agents dans les nouveaux échelons PPCR et la mise en œuvre ou non du protocole, la pénurie de médecins de prévention, les atteintes au secret médical, la reconnaissance des accidents du travail et les nouvelles modalités d'évaluation des personnes. Y répondre n'était manifestement pas la priorité du jour. Voilà, voilà. Pour ce...
Donc voilà, bon petit communiqué du coup qui rappelle ce que c'est le racisme d'État, effectivement. On est assez revenu déjà, nous, beaucoup sur ces missions-là, dans nos communiqués, dans nos tracts au niveau de la CGA, mais c'est intéressant. Ce qu'il faut revenir peut-être à la base de la polémique, c'est quand même un député, entre guillemets, socialiste quand même, qui a balancé le truc, qui a trouvé ça, qui fait partie d'un groupement qui s'appelle, je crois, le Printemps Républicain, donc pour qui la laïcité ne doit pas, voilà, c'est très droit, hein, voilà, qui a été donc après repris par F. de Souche, donc le média facho d'extrême droite qui s'en est frotté les mains d'avoir cette info-là, donc on a fait des pages et des pages, et donc derrière, le ministre qui s'est ridiculisé, parce que du coup, enfin, son intervention, elle est complètement... complètement, c'est un non-sens complet par rapport à ce qu'il dit. Voilà, donc c'est ridiculisé. Le communiqué de Sud-Éduc, du coup, national vient bien, parce que du coup, il y avait effectivement cette demande de désolidarisation du national sur Sud-Éduc 93. Il y a même des sanctions qui sont demandées sur les deux profs qui sont intervenantes sur cette formation. Ce sera jamais le cas, parce que c'est un stage syndical, donc je vois pas ce que peut faire l'académie là-dessus. Hein, voilà, c'est le syndicat qui gérait le stage. Donc voilà, après, reste la petite polémique, mais du coup, moi, j'ai pas assez gratté pour voir par rapport aux intervenants, du coup, qui devaient venir sur cette formation-là. Qui a priori fait un peu polémique, mais du coup on en reparlera peut-être la semaine prochaine. Il y aura peut-être des explications aussi données un peu plus tard par le syndicat là-dessus. Donc voilà, encore un ministre bien ridiculisé. De toute façon, celui-là on le connaît, on sait d'où il vient aussi. Hein. On refera peut-être une petite page sur lui bientôt, mais voilà, c'est un anti-pédagogiste primaire. Et on reviendra dessus un peu sur ce qu'elle veut dire et du coup sur son parcours aussi là où il était avant, parce que c'est un réac de première aussi celui-là.
Très bien, il est habillé Super. Pour l'hiver.
Si vous voulez habiller pour l'hiver. Ouais, si vous voulez une petite page de lutte, on peut.
Une petite page de lutte, ouais, pas de musique. Hein, alors,
si, on fait la musique avant la page de lutte.
Ah, bah, c'est que vous faites le contraire de ce que je voulais dire.
Dites-moi ce que vous voulez.
C'est ça. Hein, c'est pour me contrarier.
Voilà, exactement.
J'en ai une qui est assez courte. Elle est un peu plus récente, puisqu'elle date de 1991, quand même.
Oula, oui,
c'est Bernard Ascal qui va nous interpréter. Tiens, Fabriquez-moi des lois. Tiens, justement, ça tombe bien.
Assaisonne ou assaisonne, assaisonnez-moi, ami donne ou ami donne, ami donnez-moi, arraisonne ou arraisonne, arraisonnez-moi, ambitionne ou ambitionne, ambitionnez-moi. Fabriquez-moi des lois de plus en plus étroites. Assemblée comme une boîte, fabriquez-moi des lois qui m'isolent dans un cercle recouvert d'un couvert. La 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 la. Manipule ou manipule, manipulez-moi. Matricule ou matricule, matriculez-moi. Articule ou articule, articulez-moi. Émascule ou émascule, émasculez-moi. Fabriquez-moi des lois qui équerre mon cœur sans coup d'écarisseur. Fabriquez-moi des lois qu'au premier essayage je ressemble à votre image. La 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 la. Aseptise ou aseptise, aseptisez-moi. Anesthésie, anesthésie, anesthésiez-moi. Adhésive ou adhésive, adhésivez-moi. Fleur de lys ou carmagnole, camisolez-moi. Fabriquez-moi des lois qui me désignent du doigt. Le goulag est le bon choix. Fabriquez-moi des lois que je veuille pas changer de place. J'aime voter la queue bosse, bosse, bosse. Tra la 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 la. Conditionne, conditionne, conditionnez-nous. Démissionne, démissionne, démissionnez-nous. Inséminons, insémine, inséminez-nous. Inanime ou inanime, inanimez-nous. Fabriquez-nous des lois. dénoyautés, fabriquez-nous des lois, qu'on choisisse unanime le silence anonyme. La 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 la, fabriquez-nous des lois qui donnent l'envie de chanter, les cerises dénoyautées, fabriquez-nous des lois, qu'on choisisse unanime le silence anonyme.
Voilà, voilà.
Vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires.
L'émission des militantes et militants de la coordination des groupes anarchistes qui toussent beaucoup aujourd'hui. Et on va faire, c'est la saison, hein, une deuxième page de lutte sociale.
Allez, c'est parti avec Lorient, avec des gens encore une fois dans l'inquiétude, ou de l'inquiétude pour les salariés de Naftis Bretagne Sud. Alors cette entreprise fait dans le rafistolage de navires. Une trentaine de personnes donc en souci, puisque le tribunal de Lorient examinait le 3 novembre leur sort, à savoir une procédure de redressement judiciaire qui date de un an. Les salariés se sont rassemblés devant le tribunal. Cette affaire traîne depuis un an, le disais-je, depuis donc novembre 2016. En fait, c'est un prolongement de l'activité réparation navale, hein, je disais, qui est attendue. Quant à la direction, elle n'attend qu'une chose, c'est pouvoir liquider et envoyer la trentaine de personnes, de travailleurs et travailleuses ailleurs, c'est-à-dire à Brest ou à Saint-Nazaire, pourquoi pas. À Hermont, dans le 95, c'est le collège Saint-Exupéry, avec une grève le 12 novembre des enseignants, enseignantes et agents, agentes de la vie scolaire contre la suppression de postes en contrat aidé. Alors il y a eu un soutien très fort des parents d'élèves, à l'initiative des parents également une journée du collège fantôme. 60% des élèves ont boudé leur établissement, ce qui a eu pour effet de casser les casseurs de grève envoyés pour pallier au manque de professeurs. 500 élèves quand même dans ce collège, 60% qui manquent, ça fait un vide sur les bancs d'école. À Satolas, aéroport international, entreprise Samzik, encore elle, airport, assistance à personnes à mobilité réduite. Le 2 novembre, avec une grève des salariés employés à PMR, donc assistance à personnes à mobilité réduite, il et elle exigent des augmentations de l'effectif, l'augmentation des salaires, l'augmentation des moyens pour aider les personnes donc en difficulté. Cause de leurs soucis, c'est la concurrence que se livrent les prestataires. Alors, encore une fois, ici, CQFD, baisse des salaires, bien sûr, par rapport à cela, baisse des salaires, précarité, donc, de l'effectif aussi. La direction a fait un geste, entre guillemets, pas suffisant, puisque la grève a été reconduite de 24 heures. À Clermont-Ferrand, c'est le CHU donc, de la ville, le 2 novembre, avec la grève qui avait été commencée donc, le 19 octobre, et qui court toujours donc, à cette date, en service de chirurgie vasculaire et d'orthopédie. C'est pour une question de logistique, tout bonnement, puisque des lits, dans un cadre d'économie de gestion des places entre trois services, dont les urgences, donc démunir d'un côté pour garnir dans l'autre, ça c'est de la gestion à la petite semaine. C'est dans le Finistère, avec des conditions de travail, heures supplémentaires, ça vaut bien donc sa grève illimitée quand elles ne sont pas respectées. C'est le cas ici le 3 novembre, puisque les facteurs et factrices en ont ras le képi. Alors je dis ras le képi pour les jeunes gens comme vous, il fut une époque où les facteurs et les factrices, pas les factrices parce qu'il n'y en avait point, mais les facteurs portaient un képi. Ouais, voilà, c'est pour ça que je dis qu'ils en ont ras le képi. 15 personnes donc pour toute réponse, c'est un emploi précaire qu'ils ont gagné et ça répare un peu quoi en fait les dégâts. Pour les grévistes, c'est une rustine. Il et elle exigent un poste pérenne en CDI et ici c'est sud de PTT qui est à la gouverne.
à Lille maintenant, avec des salariés en risque de rupture d'emploi. Bizarre. C'est chez Jean Cabi, le charcutier en gros et charcuterie industrielle. La direction charcute, c'est rien de le dire. L'usine doit être transférée. Alors on fait feu de tout bois. Retour aux 40 heures hebdo, payé 35. Et qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Une grève. 3 jours pour obtenir, selon la CGT, que tous les emplois soient maintenus. L'embauche de 20 personnes en CDI. Un accord signé prévoyant le passage à 32 heures hebdo. Majoration maintenue des heures de nuit. Majoration 15% des heures supplémentaires de 32 heures à 35 heures. Et 25% et 50% pour les heures au-delà. Et en fait, ils ont tout gagné dans le coup. Et puis, pour terminer cette deuxième page, on va aller de côté de l'île de Beauté, la Corse, avec Monticello. C'est une crèche, la crèche Rundinella, une CGT aussi dans la crèche. Des salariés qui dénoncent la perte d'acquis sociaux et point de dialogue pour arranger les bidons de tout le monde. De 12 salariés, sauf que la CGT qui s'y pose avec rassemblement à la clé pour dénoncer, stigmatiser la disparition des tickets restaurants, par exemple, de la semaine de congé, tout ça bar out. Plus de comité technique non plus, le CHSCT au plus. Tout ça sans prévenir, tout ça de la faute d'une fusion de 2 communautés de communes en 2011 et d'un président nationaliste, je précise nationaliste, corse évidemment.
Et hein, forcément.
Tout à fait.
Donc voilà, on va enchaîner. Pour finir l'émission, il y a deux petites... on va faire d'abord un petit tour à Clermont-Ferrand. Vous vous souvenez sûrement de Wissam El Yamni, qui avait été cet habitant du quartier de la Gautière, donc à Clermont-Ferrand, qui était décédé après plusieurs jours de coma consécutif à son arrestation par la police le soir de la Saint-Civette 2011. Il y avait une grosse mobilisation, notamment un comité là-bas qui existe, notamment géré par la famille. Et presque 6 ans après son décès, donc sa famille et ses proches avaient donc préparé une cérémonie en son souvenir pour le samedi 18 novembre, la semaine dernière. Au programme, la plantation d'un arbre et le dépôt d'une stèle sur laquelle est inscrit son nom, la date de son interpellation et celle de son décès 9 jours plus tard. La famille de Wissam affirme dans un communiqué sa volonté de faire de ce moment une pause, entre guillemets, dans la quête de la vérité et de lui redonner son identité de fils, de frère, de mari et d'ami. Le maire de Clermont-Ferrand avait donné son autorisation. L'arbre et la stèle donc, devaient trouver leur place dans l'enceinte du jardin Lecoq, pour ceux qui connaissent le quartier là-bas. Mais la cérémonie n'était pas du goût des policiers, notamment clermontois. Dans un courrier adressé au ministre de l'Intérieur, le fameux GG Colomb, le syndicat Alliance, toujours le même, a réclamé son annulation. Il invoquait, entre guillemets, parce que c'est chaud, l'honneur des policiers nationaux, le respect des institutions judiciaires, et suggère que forcément, il y allait avoir des troubles à l'ordre public potentiels. Le syndicat de policiers a édité un tract dénonçant la décision d'autorisation du maire, renvoyant donc à la justice le soin de fixer les responsabilités dans la mort de Wissam. 2 autres syndicats ont rejoint Alliance, Synergie et le CGP Police. Donc le syndicat Alliance donc, a laissé planer la menace d'une participation à une contre-manifestation le jour de la cérémonie. Reçus le jour même du coup de leur tract par le préfet, ils ont obtenu gain de cause le lendemain. En effet, la préfecture a annoncé donc le 17 novembre, soit un jour avant la cérémonie, une interdiction de toute manifestation dans l'enceinte et aux abords du jardin Lecoq. Le motif invoqué, entre guillemets, des menaces de troubles à l'ordre public liées au projet de contre-manifestation des flics. Donc le préfet pointe, entre guillemets, le risque donc de confrontation violente entre les participants à ces 2 rassemblements. Une décision plus qu'étonnante, car les policiers, qui sont quand même interdits de droit de manifester pendant leur service, ont un devoir de réserve impliquant, entre guillemets, une obligation de neutralité et de loyauté à l'égard des institutions de la République. Et ici, donc, la préfecture renonce donc à exiger de ses fonctionnaires de police la protection d'un rassemblement autorisé. Plus surprenant encore, elle accepte que les, entre guillemets, fauteurs de troubles potentiels soient ces mêmes fonctionnaires de police et les récompense en leur donnant ce qu'ils attendent. Voilà, à moins que le souhait d'éviter toute visibilité dans l'espace public du décès de Wissam après son arrestation ne soit partagé par la préfecture et les syndicats de policiers. Le texte fini par la justice n'est pas pour maintenant. Voilà, on sait que c'est les nombreuses morts causées par des policiers, c'est vraiment très délicat, très difficile pour les familles d'obtenir déjà, si elles le souhaitent, un jugement. Mais là, derrière, c'était juste une cérémonie de souvenir du coup de Wissam, 6 ans quand même après son décès. Et de nouveau, juste pour une stèle posée dans le jardin public, ceci a été interdit du coup à cause de la pression de policiers qui menaçaient de manifester et de se battre avec les manifestants qu'il y avait en face. C'est quand même assez fou. Et je voulais faire un petit tour pour finir du coup en Catalogne, avec un communiqué des camarades du groupe de Montpellier par rapport à ce qui se passe là-bas et par rapport à la répression en Catalogne. Donc je voulais une petite introduction. Donc, avec les poursuites et le placement en détention pour rébellion et sédition du vice-président catalan, de 7 ministres, de la présidente du Parlement et de 2 responsables d'associations de la société civile, c'est le vernis démocratique des sociétés européennes qui craque de façon flagrante. Cela marque un tournant autoritaire évident qui tend à signifier à chacun et chacune que l'ordre établi, ici la constitution espagnole de 1978 et la monarchie, ne peut être remise en question même démocratiquement. C'est un mauvais signe donné à toutes celles et ceux qui, comme nous, se battent contre l'inacceptable de l'ordre existant. Un ordre fait d'inégalité, de misère, d'exploitation, de guerre et de destruction de la planète. Un ordre défendu par les États en Espagne, comme en France ou en Europe. La situation en Espagne crée un précédent qui ouvre la voie à toutes les répressions de grande ampleur contre les mouvements sociaux ou politiques de contestation. C'est pourquoi nous réclamons la libération et l'abandon des poursuites pour toutes et toutes les indépendantistes catalans-catalanes et plus généralement la fin de l'état d'exception qui suspend les libertés public et individuel. Cette exigence n'implique pas pour nous l'adhésion au projet porté par la classe politique en Catalogne de création d'une république catalane indépendante. La création d'un nouvel état-nation avec ses frontières, sa police et demain son armée et ses prisons n'est pas en soi porteur d'émancipation pour l'ensemble de la population vivant en Catalogne. L'exploitation des travailleuses et travailleurs catalans et catalanes par des entreprises catalanes dans un état catalan ne représente pas un changement social pertinent pour les anarchistes. Cependant, le droit de décider de son avenir qui s'exprime aujourd'hui dans le mouvement populaire en Catalogne est légitime et peut même être porteur d'émancipation. Nous sommes favorables à l'autodétermination dans le sens où une société a le droit de déterminer par elle-même son destin, mais nous sommes pour une autodétermination complète impliquant une gestion directe de la société par la population, directement et non pas en déléguant les choix collectifs à une minorité. Cela signifie l'autogestion des entreprises par ses travailleuses et travailleurs, celle des quartiers, des villes et des régions directement par ses habitantes et habitants auto-organisés. Cela passe dans un premier temps par insuffler à la lutte une dynamique de classe et autogestionnaire. Donc voilà pour le communiqué des camarades de Montpellier, de la CGA. On suivra de très près ce qui se passe en Catalogne, puisqu'il me semble que les élections sont organisées début décembre, voilà, par le gouvernement espagnol. Donc on suivra de très près ce qui se passera. Et peut-être pour finir, parce qu'il nous reste une grosse minute, peut-être de rappeler les rendez-vous. Ouais, après je sais pas si je pourrais partir sur autre chose de très long. Ouais, mais du coup je sais pas si on va quand même rappeler du coup un petit peu ce qu'on a fait en début d'émission. Ça prendra peut-être 2-3 minutes, il y a pas de souci. Du coup la marche
de vendredi, donc 24 novembre pour la date, ce sera marche non mixte à 18h en partant de Terreau qui passera par Bellecour et arrivera place de la Comédie à 20h pour un rassemblement en mixité. Voilà
donc, l'occasion
contre les violences faites aux femmes. C'est à l'occasion de la journée internationale des luttes contre les violences faites aux femmes qui est le 25.
Voilà,
du coup, ce sera samedi. On fait la manifestation juste la veille. Et voilà.
Donc voilà, pour le coup du monde à ces deux, donc à cette manif et à ce rassemblement. Le lendemain, du coup, on a fait la petite annonce tout à l'heure, donc du coup, à l'autre côté du pont, à partir de 17h30, une pièce de théâtre, faite par l'atelier théâtre de RESF, Réseau Éducation Sans Frontières. Donc on vous invite à y aller, puis comme on disait tout à l'heure, comme le lieu, voilà, le samedi est prêté à des collectifs, voilà, n'hésitez pas à y passer, même si c'est avant ou après la pièce de théâtre, voilà, pour boire un coup, manger un bout. Voilà, les recettes sont reversées, du coup, à RESF pour cette journée-là. Et je pense que ça va être intéressant de voir. Enfin, nous, on a pas mal parlé les années précédentes là, de la chorale des chants de sans-papiers qui était issue aussi d'ateliers d'écriture de RESF. Et là, ce coup-ci, c'est un atelier théâtre, du coup, et je pense que ça peut être assez bien d'y aller, de soutenir ces projets-là, surtout que c'est fait par les personnes, par les premières concernées. L'autre rendez-vous qu'on avait donné, c'était le samedi 2 décembre, un peu en avance, mais pour commencer à en parler, c'est cette manifestation, du coup, en solidarité avec toutes et tous les migrantes et migrants. Le but de cette manifestation, qui partira à 15h à la place des Terreaux, de regrouper un peu toutes les initiatives qu'il y a localement, qui sont en soutien du coup aux personnes migrantes et migrantes, qu'elles soient à la rue ou pas. On avait parlé du coup de tout ce qui s'est passé cette semaine, initié par le collectif Jamais Sans Toi, donc avec un collectif qui regroupe toutes les personnes impliquées dans les écoles où des enfants scolarisés et leurs familles vivent à la rue. Sur l'agglomération, ça concerne plus de 300 enfants. Plus du coup, les migrantes et migrants, qu'elles soient déboutées ou pas de demande d'asile, qu'elles le demandent d'ailleurs ou pas, qui sont à la rue. On pense notamment aux expulsés de la Part-Dieu, qui sont pour l'instant logés à l'amphi C de l'Université Lyon 2 à Bron, et surtout pour commencer à protester sur le nouveau projet de loi sur l'immigration qui va être pondu par Macron et Colomb, qui vont encore durcir encore plus les conditions des migrantes et des migrants. On parlera aussi de ce qui se passe à la vallée de la Roya la semaine prochaine, ce qui se passe à Briançon, des conditions extrêmes pour les migrantes et migrants qui tentent de traverser la frontière alors que maintenant c'est enneigé, voilà, on n'est plus en été, donc c'est beaucoup plus compliqué et ça implique du coup des risques de santé énormes pour les personnes qui tentent, avec des gendarmes qui n'hésitent pas à renvoyer les personnes à un kilomètre de la frontière en les renvoyant du coup du côté de l'Italie. Enfin, voilà, on parlera de tout ça la semaine prochaine pour vraiment qu'il y ait du monde sur cette manif du 2 décembre, pour que ce soit une réussite, pour qu'enfin à Lyon, on montre qu'on est solidaire avec les personnes migrantes et migrants.
Donc, ça y est, on a tout dit. Donc, on va laisser la place à la lumière du frigo, cette fois, avec derrière tout juste ton autre générique.
Excellent. Salut, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.